Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de La Nouvelle Liégeoise. Ça fait quelques temps que je n'ai pas publié, mais je devais régler quelques soucis, on va dire, techniques. Mais me voilà de retour avec Héloïse Steyert comme invitée. Héloïse est une jeune femme qui est dynamique et sensible. Elle a créé le Slow Reading Club, donc c'est un club de lecture itinérant dans Liège. Elle est aussi coach littéraire et bibliothérapeute. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle arrive à gagner sa vie, entre guillemets, avec cette entreprise un peu ovni, atypique? Vous allez voir que construire son entreprise à partir d'une idée n'est pas forcément si difficile que ça, quand on arrive à se connaître aussi bien dans nos qualités que nos défauts, et qu'il faut arriver à s'écouter. C'est vraiment quelque chose qui est très, très vital. Donc préparez votre carnet et un stylo, parce qu'il y a beaucoup d'éléments bienveillants à prendre en note, aussi bien pour le côté professionnel que personnel. Et dernière chose avant l'écoute, je tiens à préciser que l'introduction change un petit peu parce que, en fait, j'avais commencé à faire un test micro et j'ai finalement gardé ce qui s'était dit parce que je pense que c'est quand même assez intéressant à prendre en compte. Du coup, je vous souhaite une agréable écoute. J'ai pas changé la place du micro, mais on verra. Ouais, genre, tu écoutes plus de podcasts français? Bah, il n'y a pas beaucoup de podcasts.
Belge, pas tant que ça. Oui, j'ai écouté de la crème podcast. Je pense que Johan avait été interviewé justement. Quelques épisodes, mais beaucoup français, parce que j'aime bien me dire qu'en Belgique, il y a quand même beaucoup de choses à faire.
Ouais.
Et c'est pas pour copier, mais en avoir des inspirations. Et vu que j'ai vécu aux États-Unis, j'ai eu beaucoup d'inspirations anglo-saxonnes.
Ah, bah, c'est sûr.
Et maintenant, je me dis, j'aimerais aussi basculer du côté francophone et me dire, tiens, quel petit mix on peut faire
Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu as pu constater de différent entre les États-Unis et le côté peut-être belge plus que francophone?
Oui, bah écoute, belge. Mais ça change, surtout à Liège, je crois que ça change et les énergies changent beaucoup. Mais aux États-Unis, ce que j'ai adoré, c'est que mon mari, par exemple, quand on est arrivé, n'a pas été embauché sur base de ses diplômes. Il avait fait de la psycho, les ressources humaines, etc. Mais c'était genre, t'as de l'expérience, t'as ci, on te fait confiance, quoi. Tu viens dans notre entreprise.
C'est moins sur le papier, c'est plus l'humain, quoi.
C'est plus l'humain, c'est plus aussi faire confiance dans la compétence des gens, mais des gens et pas de leur diplôme et leur formation.
Plus au feeling, peut-être.
Au feeling, avec ce côté hyper pragmatique, proactif, quoi.
Ouais.
Donc on va te mettre sur le terrain. Ouais. Si ça va pas, tu sauras vite, ce sera cash et direct. Peut-être pas toujours très sympa non plus, mais si t'assures, par contre, là,
on peut l'avoir. L'ascension sociale est vraiment possible, en fait.
Complètement. Alors, la méritocratie, moi, je suis très ambivalente parce que je suis la première à croire que tu fais quelque chose, tu fais plein de choses, tu mérites après d'avoir des retours, du succès, tu mérites aussi le train de vie, tu mérites tout ce que tu as planté comme
bien
petite
sûr,
graine.
Ouais.
Et à côté de ça, ben, ayant fait un burn-out, je suis très ambivalente parce que je me dis méritocratie, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec ce canevas très anglo-saxon, français, judéo-chrétien aussi, où ben, quand tu réussis du côté francophone, je trouve que c'est pas toujours aisé de l'afficher.
Ah oui, non, il y a une sorte de gêne.
Hein, et on a encore beaucoup discuté hier sur les réseaux avec Lisette Lombé, qui est une super slameuse, qui est vraiment dans le littéraire.
Pas.
Oh là là.
Ah ouais.
une bombe, quoi. Donc elle est poétesse, elle est slameuse, elle est écrivaine. Et elle coach des personnes en slam, etc. Mais alors...
C'est quoi son nom?
Lisette Lombé. Mais elle se nomme elle-même, elle se dénomme elle-même artiste-entrepreneur. Et ça, j'adore. Parce que du coup, elle fait exploser plein de blocages sur justement, c'est ok d'être artiste et gagner de l'argent. Tu vois que ce truc très français, excuse-moi, mais tu vois, de l'artiste torturé, le poète maudit, et
déjà, un peu en dehors de la société.
En dehors, dans son trip perso, mais où c'est un petit peu déchéant, c'est un peu ermite, etc. Être visible, montrer, chaque fois qu'il y a une consécration, une publication, un article, oser l'afficher, et pas pour afficher pour la gloriole, mais dire, voilà ce que je fais, c'est valorisé, et je vous invite à m'accompagner dans cette vision, et on y va ensemble, quoi. Parce qu'elle a eu beaucoup de retours très négatifs pour l'instant, qu'elle se mettait trop en avant, machin. Et à côté de ça, les artistes, c'est la merde pour l'instant, c'est la galère, quoi. Donc si tu fais pas ça, comment tu vis? Comment tu payes tes factures? Donc, j'aime bien cette idée, elle y va en force. Moi, c'est beaucoup la douceur, mais elle y va vraiment en force et au moins créer des discussions par rapport à ça, quoi.
C'est marrant, je voulais faire un test, mais je pense que je vais le garder.
Ah pardon.
Mais du coup, je vais enchaîner sur une première question, c'est du coup, toi, ton rôle... Dans ton boulot, tu rejoins un peu ce que tu viens de dire, genre tu aides l'artiste à concrétiser son travail. Mais comment tu le fais concrètement?
Alors pour commencer, je suis partie vraiment de mon expérience personnelle quand j'étais enseignante et voilà, romaniste et en ayant bossé dans la com. Beaucoup de personnes se tournaient vers moi naturellement, mais comme une bonne copine, comme
Oui,
une
comme camarade,
connaissance,
quoi, ouais.
camarade, ils disent, tu peux me donner ton retour là-dessus. C'est vraiment venu de manière très inductive. Et au bout d'un moment où j'en ai vraiment eu marre d'enseigner, je me suis dit, mais j'ai des ressources en moi qui peuvent vraiment aller plus loin que simplement enseigner. J'ai analysé ce que j'étais capable de faire. J'ai analysé avec beaucoup d'honnêteté, juste une discussion entre moi et moi-même, parce que le dire à d'autres, c'est plus gênant, mais dire, voilà, je suis bonne là-dedans, on vient me chercher pour ça, donc on va faire quelque chose avec ça, quoi. Et donc, bah, relire des discours dans la famille, écrire les discours, relire les mails de quelqu'un, tu vois, par exemple un médecin, scientifique, et dire, bon, là, je dois envoyer un mail important, tu peux le relire. C'est vraiment parti de là. Et puis, j'ai un ami, maintenant, qui bosse au Mexique, qui avait écrit un roman, et il m'avait demandé, est-ce que tu peux le relire, est-ce que tu peux me donner ton avis, etc. Et là, je me suis dit, mais j'adore faire ça. Et j'ai fait un stage en édition, quand j'étais en com. À partir de là, j'ai rassemblé tout, et je me suis dit, mais je peux vraiment pousser le truc plus loin, en me disant, il y a des gens qui veulent écrire. Et j'entends souvent autour de moi des gens qui disent, j'adorerais écrire, mais je ne le fais pas. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi comment construire une proposition par rapport à ça. Et c'est leur envoyer un signal dans ma com, dans les messages que j'envoyais sur les réseaux, etc. Tout le monde a le droit d'avoir envie d'essayer. C'est vraiment pas grave de dire qu'on écrit, qu'on a envie d'écrire. Il n'y a pas
Bah,
de.
les gens, ils ont un
Alors, les
peu
blocages, il y en a
honte.
beaucoup.
Ah oui.
Je pense que c'est assez similaire à une forme d'entrepreneuriat. C'est une forme d'entrepreneuriat créatif, c'est de dire, mais j'ai envie, mais je suis pas capable. Le syndrome de l'imposteur, il est là aussi, chez la plume, chez l'artiste. Qu'est-ce que j'ai à raconter, moi? Tout a déjà été dit. Qu'est-ce que j'ai comme plus-value à apporter? Donc il y a beaucoup de blocages chez les
Est-ce que tu penses que
personnes.
c'est l'époque aussi, parce que dans une époque où on écrit moins de lettres, on est dans le rapide, dans une correspondance qui est plus furtive, ou même dans les relations, tu sais, genre tu rencontres quelqu'un et paf, il y a moins de recherche, il y a peut-être, entre guillemets, moins de profondeur,
C'est vrai, il y
mais...
a un côté très instantané, très éphémère dans la plupart de nos échanges, et principalement même nos échanges
Tu sais,
écrits.
genre on ne vit qu'une fois, alors du coup tu fonces...
Tout à fait, et même j'ai constaté dernièrement que quand bien même tu as basculé vers des WhatsApp, des Messenger, etc., c'était encore écrit. Moi récemment, j'entends même maintenant des messages enregistrés vocaux
Ah,
sur
mais
un
bien
Messenger, un
sûr!
WhatsApp. Donc ça veut
Oui, mais
dire qu'on
c'est
est même en
trop
train de perdre ça, quoi.
long!
Voilà. Et du coup, oui, je vois ta question, je la comprends. C'est vrai que redonner une place à quelque chose qui est qualitatif, dans un monde où a priori on n'envoie pas ce signal qu'on peut le faire, je pense que ça a été un frein chez beaucoup de personnes. Donc dans ce que j'ai proposé, je pense qu'il y a un message qui a été vite capté par beaucoup de personnes qui se sont dit c'est pour moi, je me retrouve là-dedans, je suis pas une littéraire a priori, mais j'ai un truc à raconter, j'ai un truc à dire, et qui va pouvoir m'aider pour le faire, pour le concrétiser. Donc j'ai gardé ce terme de coaching littéraire parce que bon, dans beaucoup d'autres pays francophones, on parle plutôt d'accompagnement littéraire, et je me dis coaching je garde ou pas, parce que coaching c'est aussi très galvaudé, c'est tout et n'importe quoi dans ce mot-là. Et j'ai réfléchi longuement, j'ai un peu oscillé accompagnement, coaching, et je me suis dit non, coaching, je repense au cocher dans l'antiquité grecque antique, le cocher c'est vraiment celui qui amène l'âme à destination. Et là
Ah
je me suis
oui.
dit, là oui, t'as l'esprit, t'as le corps, et le cocher il est en train de dompter ses deux chevaux pour les emmener dans la bonne direction. Bon, ça c'est moi, mais
Ah
je me
mais
suis
c'est
dit,
super
cette
intéressant.
étymologie, elle me convient. Donc, cocher, coaching,
Mais
c'est
c'est...
montrer la voie, c'est pas faire à la place de l'autre, quoi. Et ça m'a beaucoup parlé. Et aussi en gardant cet aspect, quand même, coaching de vie. C'est-à-dire que les personnes, elles viennent pour écrire, soit pour avoir de la motivation, de la discipline, soit parce qu'elles ont besoin de conseils techniques ou de retours justes, objectifs sur ce qu'elles font. Mais en fait, principalement, avant tout ça, elles ont besoin d'un petit coaching perso, un petit coaching de vie pour travailler tout ce que je viens de te dire.
Les
Les
déblocages, en
blocages, voilà.
fait.
Faire sauter les blocages, faire sauter les freins. Nourrir la confiance en soi, de dire je fais ce truc et c'est juste. Peu importe qui de l'autre côté m'observe, peu importe qui me regarde, qui va juger, je le fais d'abord pour moi parce que c'est essentiel pour moi à ce stade-ci de ma vie.
Ouais, c'est de
Et
plus en plus
là,
rare, en plus.
de plus en plus rare, tout à fait.
Tu vois, de se consacrer peut-être à soi.
Oui, et en fait, le message qui a été envoyé d'abord implicitement, même inconsciemment, et maintenant qui est vraiment cultivé pour que ça passe dans l'esprit des gens, c'est prendre du temps pour soi. Et surtout quand on est dans une démarche créative, qu'elle soit artistique, mais qu'elle soit même dans le domaine entrepreneurial. Je veux dire, si tu n'es pas créatif, si tu ne polis pas ce truc créatif en toi, si tu ne chouchoutes pas, si tu ne fais pas une place, comment tu rebondis? Comment tu penses à lancer des nouvelles choses? Ça, c'est pour l'entrepreneuriat. En littérature, en écriture, n'importe quel domaine artistique, si tu n'as pas ce temps de pause, où tu as les choses qui flottent un petit peu. Tu peux juste les observer. Tu peux juste réfléchir un petit peu, prendre du recul, analyser, ou juste écouter ce qui se passe à l'intérieur et dire ça, ça dit quelque chose. Mais si tu es dans le va-vite, dans l'éphémère, si tu es tout le temps en train de courir, tout le temps connecté, hyper connecté à tout, ben, ces petites choses qui gravitaient autour de toi, tu n'as plus le temps de les attraper et d'en prendre conscience. Donc j'envoie ce message-là aussi, prenez du temps pour vous. Quand bien même on a l'impression que c'est inutile et que c'est de la glandouille, alors là, tu mets ta casquette stratégie créative et non, c'est même au service de ton job ou au service de ton projet artistique. Quoi.
Donc ça, c'est ton projet, en fait, voilà, concrètement, tu développes les gens. Et au tout début de ta construction d'entreprise, parce que tu as été prof avant, tu as été burn-out et tout ça, mais quand tu as eu cette idée de créer ce job ou ce boulot, comment ça s'est mis en place? Parce que c'est quand même, entre guillemets, un ovni. Comment tu as pu défendre ce boulot face à toi en disant, tiens, je vais gagner ma vie avec, ou alors je commence par faire un loisir? Et comment tu as pu le défendre aussi, peut-être face à...
L'entourage.
À l'entourage. Comment s'est créé ce boulot?
Alors, maintenant, je commence tout doucement à avoir du recul. Ça va faire 2 ans et demi, donc je suis encore fort dedans, mais je commence à voir les débuts, à analyser ce qui s'est passé, et je me rends compte que ça a été... en plusieurs temps, c'est-à-dire que... mais un vrai déclencheur, mais qui n'a pas été pris consciemment dès le départ, c'est le retour des États-Unis. C'est-à-dire que, avant ça, j'étais au Mexique, et donc j'ai eu une année ou deux où c'était complètement fou, et j'ai pris conscience d'un potentiel, simplement parce que je m'autorisais des choses. J'ai postulé pour ce truc-là, j'y vais, je suis reprise, j'ai une super expatriation, tout ça, j'ai pris conscience, ça venait de moi, et des démarches que j'avais entamées moi-même. Et puis quand tu reviens, ben, t'as vécu plein de choses, c'est dense. Et puis je me suis remise un petit peu, et c'est vraiment sans jugement, mais dans une sorte de petit train-train, prof, temps plein, boulot, sécurité. Maison, voilà, sécurité. Et sur le coup, je pense qu'en revenant d'une expatriation, c'était rassurant de retrouver une forme de stabilité. Donc rien n'a mal été fait, mais il y avait ça. Et puis j'ai un premier enfant. Il n'y a rien à faire quand t'as un enfant, tu réfléchis. Ça bouleverse quand même pas mal de choses en toi. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi à mes enfants pour plus tard, comment j'ai envie aussi d'emménager ma vie avec ce nouveau gros bazar dans ma vie qui prend de la place, de l'énergie. Et surtout, in fine, se dire, ton enfant, si tu t'écoutes, il te ramène aussi à toi, à qui tu es. Et moi, je m'éparpille dans beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, ben, il t'envoie un message, recentre-toi, retrouve-toi, quoi. D'abord pour toi et pour lui envoyer le signal que pour lui aussi, ce sera bon. Et donc, tout ça m'a fait prendre conscience que je me sentais enfermée dans l'enseignement, enfermée dans mes envies où j'ai besoin de beaucoup de liberté. Et plus j'évolue maintenant, plus je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup de liberté pour faire des choses bien et qui fonctionnent bien et surtout qui m'épanouissent, qui me font kiffer. Et du coup, je me sentais un peu coincée. Et bah, au moment du burn-out, il y a rien à faire. Ce qui était génial, c'est que là, tu as 6 semaines pour te reposer et un peu glander et te reposer. Mais c'est pas si cool. Hein. Tu as des insomnies, tu as des grosses prises de conscience, mais ça te ramène vraiment à toi. Et je me souviens d'une discussion avec mon papa, une fois tranquillou devant un feu, et je lui ai dit « j'ai besoin d'entreprendre ». Et c'est fou, parce qu'avant même l'écriture, avant même la lecture et des choses qui sont en moi depuis longtemps, je me retrouve vraiment en ce moment de discussion super transparente avec lui, et je lui ai dit « j'ai besoin d'entreprendre ». Et il m'a dit « ouais ».
T'as jamais pensé à ça avant ?
Non.
Jamais. T'as toujours non. peut-être voulu être prof
Oui, complètement. C'est-à-dire que... si je fais un travail super honnête avec moi-même, on a parlé un petit peu de la peur, je n'avais pas...
L'homme se révèle dans la peur, hein.
Oui, et en fait, je pense que j'ai eu... et c'était bien caché, parce que je suis quelqu'un de très open, très extraverti, et c'est pas quelque chose que je manifestais, mais je pense que c'était intérieur. Il y a une peur qui était là pendant les études universitaires, où j'avais déjà énormément d'envie d'écrire. J'écrivais beaucoup de poésie, j'avais des envies de théâtre, enfin j'étais dans ma tête, mais dans les faits, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'enseignement, j'ai fait la grecque et j'étais même dans une classe. Et j'ai adoré, et je pense que ça a vraiment bien fonctionné, mais comme si être sur les rails, c'était bien. Ça me rassurait moi, et sans du tout de mauvais jugement vis-à-vis de mon entourage familial, je pense que ça rassurait aussi mes parents. Et ça envoyait un message hyper rassurant à mes parents qui se disent « elle a un diplôme, elle a trouvé un boulot tout de suite, elle n'a pas galéré, elle n'a pas été au chômage, faire la file. Enfin, » et je pense qu'on est quand même fort conditionné par le regard de notre socialisation primaire, plus nos frères, nos sœurs, nos parents. Mais inversement, quand j'ai dit « je me lance », ils étaient ok, quoi. Ils
ont compris. Toi, dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, t'avais créé ton concept dans ta tête où tu t'es dit, bon, bah, je vais faire ça, 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 et puis on verra après. Est-ce que t'avais genre un business plan?
Pas du tout. Ah non, c'est super réductif. Alors là, maintenant, je me retourne, je me dis, mais qu'est-ce que t'avais dans ta tête? On est venu mettre un cadre après, et grâce à Jobin qui est venu me dire « Écoute, okay. Cocotte, là, on va un peu travailler ça et ça », mais c'était vraiment l'élan du cœur. Il y avait une urgence en moi, c'est juste ça, il y avait une urgence. Il n'y a pas de hasard, c'était un symbole, il y avait une rentrée scolaire. Est-ce que j'y retourne ou pas après le burn-out? Et j'ai dit non, je n'ai pas envie, mais si je ne le fais pas, c'est pour faire quelque chose de mieux et d'encore plus beau, et pas juste me retrouver chez moi, et quand bien même ce serait ok hein, pour réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais... Et là, il y avait une urgence de fou, c'est-à-dire... J'ai découvert que j'ai besoin d'écrire à nouveau. J'ai envie d'envoyer ce signal-là aux autres.
Ah oui.
Que ça me change ma vie à nouveau de retrouver ce plaisir d'écrire, de me reconnecter à moi. Et si ça m'arrive à moi, ça doit probablement arriver à plein d'autres personnes qui sont dans ce kiff-là aussi. Mm-hmm. Et j'avais testé, toujours en étant enseignante, le club de lecture.
Ah, donc c'était en parallèle avec...
En parallèle avec le Slow Reading Club. Donc c'est très progressif. Je sors de mon burn-out... Je veux absolument finir mon contrat d'enseignante parce que c'est important pour moi. Mais à côté de ça, je me dis, on va faire une activité qui est un peu mon hobby, où je sens que je peux aussi m'épanouir et proposer des choses. Voilà, excuse-moi, je ne suis pas très, très claire. C'est parti un peu lentement.
Je sais que tu as un club de lecture, je sais que tu es coach littéraire, mais je veux dire, comment tout ça s'est mis en place? Parce que c'est quand même assez, entre guillemets, abstrait. Moi, personnellement, même si j'avais eu l'idée, je me serais jamais dit que je pourrais gagner ma vie, tu vois.
Tout à fait, oui.
Parce que je n'ai pas un entourage qui est ciblé.
Oui. En fait, c'était très progressif. J'ai envie d'entreprendre, donc on va tester un truc que j'ai envie de faire. Donc, c'était le club de lecture. Qui était complètement bénévole, gratuit, c'était je proposais un truc au monde parce que moi ça me remplit.
Et tu faisais où?
Je faisais d'abord dans une librairie du voyage à Liège qui s'appelle...
À côté de Bernouvaz.
Oui, c'est ça. Toute direction, qui m'a super bien accueillie et tout. Et puis après, je me suis dit, on va faire un côté itinérant parce que je rejoins ton amour de Liège.
Ah oui.
Donc, je voulais montrer aux lecteurs plein d'endroits sympas à Liège.
Génial.
Où on peut lire. Où on peut passer un super bon moment, une ambiance, un petit thé, un petit café, être entouré de livres ou de belles choses, comme ici aussi, tu vois, c'est pas nécessairement uniquement orienté
si
lecture.
Tu veux faire
mais,
un peu de lecture ici
Ah ben écoute, dès que c'est reparti, je saisis l'invitation avec grand plaisir. Et puis, les gens, le retour des gens. Et c'est ça aussi, j'ai fait un gros travail sur moi. C'est ok de recevoir des merci, c'est ok de recevoir des super feedbacks positifs. Des encouragements et te dire mais en fait je les prends quoi, il y a un signal, ça plaît aux gens, ils disent merci
et là, les idées, merci.
Et là c'est parti, c'est à dire que ça nourrit moi-même ma confiance en moi dans ce que je pouvais proposer, ça nourrit l'envie de continuer d'aller plus loin et entre temps rentrée scolaire ou pas, et là je me suis dit si c'était l'écriture la lecture d'un côté, on va l'explorer l'écriture de l'autre côté. Toujours avec cette question qui ne s'est même pas posée, est-ce que je gagne ma vie ou pas.
Oui, voilà, ok, c'est intéressant.
Et par contre, je me suis dit, alors là, je me fais accompagner par une couveuse entreprise. Je suis plutôt littéraire, créative, un peu fofolle, donc il me faut un côté plus carré. Et c'est là que le business plan arrive, et c'est là qu'on me parle de...
Reconnaître
ses faiblesses.
Et pas vouloir tout faire.
Tout à fait. Et là, c'est quelque chose, je pense que je l'ai quand même depuis le début, je sais dans quoi je suis bonne. Mais je sais très vite aussi prendre conscience de là où je peux me faire aider, accompagner. Mmh. C'est-à-dire que et c'est plus nourrissant et plus riche dans ce sens-là. Quoi.
Plus efficace aussi.
Plus efficace. Positif, ouais. Parce que là, je ne peux pas perdre de temps. C'est-à-dire que j'ai une maison à payer, j'ai un gosse à la crèche.
Oui.
Entre-temps, un deuxième en route.
Mmh.
Donc, à un moment donné, j'étais enceinte de mon deuxième dans tout ce maelstrom d'idées et d'envie. Donc, j'ai commencé enceinte de 3 mois. Et là, j'ai dit, je ne perds pas de temps. D'abord parce que concrètement, j'accouche dans 6 mois. Donc, il faut bien poser les bases hein, pour que quand je me pose et que j'ai quand même un mini congé mat, ça tienne la
route. Tu sortais ton burn-out ?
Oui. Mais ça, c'est moi, bienvenue dans ma vie.
Pourquoi pas, mais c'est stimulant.
Mais justement, le fait de tomber enceinte une deuxième fois m'a donné beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que par rapport à ce truc de maternité, j'expliquais qu'est-ce que je fais comme, qu'est-ce que j'aurai comme signal à mes enfants plus tard. Qu'est-ce que je fais pour être le plus proche de moi-même, pour leur montrer par la suite qu'ils suivent leurs envies aussi, qu'ils soient proches d'eux-mêmes. Quand tu as un deuxième qui arrive, c'est l'effet double, quoi. Mmh. Double énergie, double envie. Et là, par contre, tu ne peux pas perdre de temps. Donc, Jobin, tout de suite, qui m'a accompagnée. Et à nouveau, une super validation, parce que tu parles d'un projet OVNI. Là, j'en prends quand même conscience. Et je me dis, c'est bien beau de vouloir vivre de l'écriture. Mais je calcule dans ma tête combien d'ateliers je dois faire pour avoir un salaire minimum, un SMIC, quoi, tu vois. Là, je me rends compte que, mais il va falloir aller un peu plus loin dans la réflexion, quoi. Et j'ai eu un grand coup de bol, c'est que j'ai découvert Jobin, mais paf, comme ça, sur Internet. Je savais même pas que ça existait. Enfin, il y a eu des synchronicités de fou qui se sont mises.
Google Ads.
Probablement. Ça, c'est le côté plus carré, oui. Mais en tout cas, j'ai vu des super perches qui ont été tendues comme ça, qui pour moi étaient des hasards à ce moment-là. Et je me suis dit, ouais, là, je veux bien me lancer, mon conjoint a l'air ok, mais c'est un risque acceptable. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec une copine qui s'était lancée aussi. Elle m'a dit, mais tu prends pas des risques de fou. T'es en train de poser des choses pour que ce soit consciemment, pour que ce soit des risques acceptables. Mmh. Et ce terme-là, dans ma tête, il a été, ouais, c'est ça, quoi. Prendre des risques acceptables, ça veut dire que je me mouille, mais ça va pas être la fin du monde si ça va pas. Et simplement te dire, ça va pas être la fin du monde, les choses que je suis en train de mettre en place, les ressources que je suis en train d'aller chercher, ben, elles m'aident dans une bonne direction pour prémunir justement au moindre obstacle. Donc ça va aller. Et là, j'ai une foi de me dire, ça va aller, j'y crois. Et quand Jobin me dit, c'est ouais, ton projet il est super, il tient la route, alors que bon, Jobin, c'est plutôt science éco, c'est plutôt business, finance, moi je viens pas du tout de ce domaine-là. Mm-hmm. Donc quand tu reçois ce signal-là de personnes dont c'est le boulot de mettre des gens en entrepreneuriat et que tu dis, super, alors là, tu sens encore plus gonflé à bloc et tu dis, bah...
mille autres idées, et, ouais, ça, et là, c'est là parti, que tu se construis encore plus, quoi.
Oui, oui, oui. Et aussi, à côté de ça, y a une communauté qui s'est créée assez rapidement, de personnes qui ont très vite adhéré à ce
de
que je
propose. De bouche à oreille, c'était ?
Bouche à oreille Facebook, okay. Au début. Maintenant, tout s'est professionnalisé et je travaille avec d'autres outils beaucoup plus pros. Mais je veux dire, le point de départ, c'est le bouche à oreille Facebook, avec une bête page Facebook.
Bah, c'est Liège aussi. Hein.
Et c'est Liège. Et autour de Liège, après, ouais, une librairie qui parle à quelqu'un d'autre et machin. Ah ouais, j'ai entendu que tu l'as fait là, ton club, bah viens chez nous. Comme ici un peu maintenant, tu vois, bah si ouais. Tu veux, tu viens chez nous. Ah ouais, et puis c'est parti, quoi. Et c'est Liège. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que pour entreprendre, je dis toujours que Liège est un village, mais pour moi c'est bien. C'est-à-dire que c'est une ville à taille humaine. Il y a toujours des recroisements. Ah, et même parfois des personnes qui ne me connaissaient pas. Ah, c'est toi, Slow Reading Club. Mm-hmm. Ah, ben oui, c'est moi. Et maintenant, je me mets un peu plus en avant et on commence à comprendre que Héloïse, voilà, c'est ça et ça. Mais au début, j'étais pas du tout dans cette idée de me mettre en avant. Mais, chemin pourquoi faisant, c'est aussi un blocage que tu travailles sur toi de par ton éducation. Dans une famille où on est assez modeste, tous, que ce soit mes parents, mon frère et ma soeur, on fait beaucoup de choses, mais on est modeste. C'est une transmission de valeurs qu'on a reçues de nos grands-parents, de mes parents, etc.
Un héritage
qu'on accepte, puis qu'à un moment donné, il faut oser dépasser aussi.
Un héritage d'humilité, quoi.
Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il faut oser dépasser un petit peu certaines choses de son héritage.
Pour se construire soi.
Ouais, faire bouger un peu les lignes pour se construire soi et revenir un peu plus au plus près de soi. Donc ça fait bouger les lignes dans la famille aussi, ça fait bouger les lignes dans les gens autour de toi. Moi, je trouve ça beau. C'est le plus, quoi. C'est,
tu apportes ta pierre.
C'est l'actualisation, quoi. Mais du coup, se mettre en avant, ouais, gros travail. mais qui est venu progressivement. Et à nouveau, tu te poses, et sur base de ton business plan et ta proposition de valeur et ton fameux why, pourquoi tu le fais. Là, pourquoi je le fais, je sais vraiment. Et c'est inchangé depuis 2-3 ans. Donc, ça veut dire que si ce truc est super important, alors me mettre en avant, ça devient être au service de ce truc qui est plus grand que juste mon ego trip, quoi.
Voilà. Ouais, c'est ça, en fait.
Et ça, c'est important. Et je pense que du coup, les gens l'ont senti. Et parfois, c'est vrai que je demandais à une copine dans un coworking ou à une nana qui entreprend ou à une cliente, je dis, ça va, je ne mets pas trop en avant, là, je suis gênée, j'ai fait un post où on me voit, je parle de moi. Et à un donné, le retour, globalement, c'est non, c'est super. Enfin, donc, ça se construit progressivement aussi.
Oui, tu ne te mets pas en avant, tu mets ton entreprise en avant, ton service en avant à travers... ta valorisation, enfin,
ouais.
Comme tu dis, c'est pas un ego trip et je pense que c'est
donc maintenant c'est très clair,
hein. Important parce que les gens qui ne se lancent pas, il y a un blocage à cause de cet ego trip, genre ah ben tu la pètes, ou quoi.
Ouais.
Alors que c'est pas mauvais entre guillemets de se la péter. Bon, il y a une différence entre ici avec la prétention, mais
tout à fait, on peut jouer
mais
sur
les
notions.
Il faut en avoir un petit peu et en fait quand on est sûr de soi, tu arrives vraiment à encore plus mieux se connaître et mieux se débloquer, quoi.
Oui, oui, moi je trouve ça assez bizarre parce que je le vois dans... Et même chez Jobin où on côtoie beaucoup de personnes qui sont dans des autres projets, on a des formations en groupe, et puis toi tu commences à networker, à rencontrer d'autres gens qui sont principalement aussi beaucoup des starters, et puis après les starters, tu te prends connaissance d'autres personnes qui sont déjà plus campées, affirmées dans leur entreprise, et donc tu reçois tous ces feedbacks, toutes ces discussions super riches, et tu te rends compte qu'à un moment donné, ouais, il faut débloquer ça. Si toi, ta vision long terme, elle est là... Tu vois ceux qui sont plus en avant que toi, 2, 3 ans, 10 ans d'expérience, tu te dis, bah, si tu veux passer à la vitesse supérieure, toujours pour remplir ton fameux why, et aussi te dire, bah là, il faut que ça devienne viable aussi. Donc c'est aussi idéologique et pragmatique. si je veux débloquer le bazar idéologiquement pour moi, arriver vraiment là où je veux venir dans ma tête. Dans ma tête, c'est clair, hein, dans 10 ans, je sais où je suis. Mais
c'est vrai.
Globalement, oui.
T'as eu cette idée depuis le début ou c'est au fur et à mesure de la construction de ton projet que t'arrives?
Alors, la vraie vision depuis le début. Toi, vision, mission, la vraie vision depuis le début, c'est-à-dire que je sais que moi, ma vie maintenant, elle est calée sur l'écriture et la lecture.
Okay.
Où c'est pas que pour moi, c'est aussi pour les autres, dans le partage. Ça, c'est une vision qui est très claire. Après, elle s'est précisée dans les ambitions. Au début, c'est je vais animer des ateliers d'écriture. Et puis après, si j'anime, autant coacher un individuel. Et puis maintenant, la vision, c'est vraiment une école d'écriture créative avec cette inspiration anglo-saxonne où tout le monde travaille, échange, parle de son projet, se stimule. Une vraie écriture, un peu comme Les Mots, qui est une école d'écriture parisienne, mais toute fraîche, hein, qui date d'il y a 2 ans. En tout cas, c'est simplement cette idée d'institutionnaliser ce bazar.
D'accord.
Où tu envoies le message à tout le monde, la porte est ouverte, venez. Qui que vous soyez, littéraire ou pas, vous avez un truc à raconter, c'est open, venez, et on travaille ensemble pour que ça dépote, quoi.
Oui, donc le bouche-à-oreille t'a beaucoup aidé, parce qu'on est dans Liège, au final.
Ouais,
donc,
ouais.
Comme tu disais, c'est un petit village, mais pour toi, c'est quoi un Liégeois?
Ah, c'est quoi un Liégeois? D'abord, je vais te dire que moi, je me sens Liégeoise de cœur. Donc, on va commencer par là. Je pense qu'il y a des Liégeois qui sont des purs Liégeois, qui ont grandi, dont les familles sont Liégeoises, etc. Et qui connaissent terriblement tout, les quartiers, les boutiques, les magasins, les histoires. Qui ont déjà vécu dans ce grand village depuis toujours. Et là, on sent qu'il y a le pur souche, quoi. Mm-hmm. Et puis, il y a les Liégeois de cœur. Et en fait, je trouve qu'il y a énormément de Liégeois de cœur. Et des pièces rapportées, oui, françaises, hollandaises, et tu vois, qui viennent faire leurs études, et puis qui gardent un truc de Liège, et une âme, il y a beaucoup d'âme, il y a beaucoup de chaleur à Liège. Et je fais vraiment un parallèle entre Liège et ce projet entrepreneurial, il y a un côté sans prétention, qui globalement est belge, mais encore plus à Liège, je trouve. Sans prétention, sans prise de tête, on se tutoie, on se tape dans le dos, on va boire une chope, et on parle de ce qu'on fait. Donc ce côté... accessible, décomplexé, moi ça me met dans des... Je suis dans mes baskets quoi, je suis comme un petit poisson dans l'eau et on est revenu de Louisiane avec mon mari, on avait vécu à Nouvelle-Orléans qui est une ville assez humaine aussi et la question c'est quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait? On vit à la campagne, on vivait dans le bayou hein, au milieu des marais et des moustiques et, mais on allait tout le temps en ville et en fait on s'est rappelé qu'on est super citadin donc en revenant c'était no way, c'est Liège, c'est pas ailleurs, on reprend un appart à Liège, on établira notre famille à Liège, etc. Oui, avoir l'impression que tu connais beaucoup de gens, mais pas connaître pour faire bien parce que tu bosses et t'entreprends, mais que tu les connais vraiment, tu as des bons échanges avec eux, c'est cool. Et pour faire une petite parenthèse, moi j'étais enseignante et je travaillais loin, je travaillais dans les Ardennes, je faisais beaucoup de trajets en bagnole, etc. Et en fait, maintenant j'ai beaucoup analysé ce qui se passe. Quand j'ai lancé le Slow Reading Club, avec ce côté itinérant, on va lire dans plein d'endroits de la ville, j'avais envie de me sentir à nouveau appartenir à la ville. C'est pas juste vivre, garer ma bagnole dans le garage, dormir, me réveiller, aller au boulot et de temps en temps aller boire un verre dans le carré ou au resto. M'approprier la ville, me dire que je m'inscris dans cette énergie. Et quand on est en littérature, souvent les villes sont des personnages. New York, la Nouvelle-Orléans, Paris, les villes sont des personnages. Et de me dire que du coup Liège c'est un personnage et moi je suis pote avec. Enfin c'est un peu bizarre, mais tu vois, j'aime beaucoup cette image. Et du coup, ça fait 2 ans et demi, je me sens vraiment appartenir à Liège. Et plus j'ai fait mes études là, et je viens de par hasard me planter là, je me sens liégeoise.
Ok. Ouais.
De cœur, mais maintenant liégeoise. Et mes enfants le deviennent, ils sont nés là, donc c'est cool.
Là, je vais arriver aux dernières questions. Quel est le conseil que tu aurais voulu savoir avant d'entreprendre? Vraiment...
Ben, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression d'avoir déjà reçu quand même beaucoup de conseils qui m'ont fait gagner beaucoup de temps, de plein de personnes.
Le conseil,
mets-toi plus en avant tout de suite et sois plus ambitieuse dès le départ. Quoi. C'est un peu cash, hein, mais n'aie pas peur. Élargis les champs des possibles tout de suite. Quoi. Après, j'ai pas envie de refaire l'histoire parce que c'était progressif, que c'était juste, mais se dire c'est important, c'est bon, donc on y va, quoi. On se prend pas la tête. C'est authentique, c'est sincère. Et
être dans l'action, quoi.
Être dans l'action, ouais.
Et quel est le défaut que tu as dû radicalement changer pour mener à bien ton entreprise?
Mais je dois toujours le changer, mais je me soigne. Et chaque fois, de mois en mois, d'année en année, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est pas encore parfait. Une organisation de fou, quoi. Organisation des outils. J'ai encore des outils à développer pour mieux m'organiser, gagner en temps, en efficacité. Là, c'est pas du tout.
Quoi, dans l'administration, peut-être
administration, fichiers clients, machin. Mais bon, là, j'ai une newsletter, j'ai posé des systèmes de billetterie en ligne automatique. Donc, tout est en train d'arriver. Mais à un moment donné, vu que je suis perfectionniste, je me dis, je peux encore gagner un petit peu de temps là. Parce qu'en fait, le temps est précieux. Je suis jeune maman, ouais. J'ai des gamins de 2 et 4 ans, j'ai une vie de famille, une vie sociale. Donc, à un moment donné.
T'es millimétré aussi.
Pour il faut qualitatif. Vraiment que ce soit carré. Pour que ce soit qualitatif et surtout parce que je fourmille d'autres projets, dégager un petit pourcentage de temps pour développer de nouvelles choses et pas m'enfermer uniquement dans ce qui se fait maintenant. Donc ça, bah, si tu veux gagner du temps, il faut t'organiser. Et ça, c'est ambivalent parce qu'en même temps, je suis vraiment la philosophie slow life, quoi.
Ouais.
Je me marre parce que plus j'ai avancé dans mon projet, moins j'étais slow, mais ça reste quand même un horizon. Et je lis beaucoup de choses sur le slow working, donc c'est-à-dire travailler moins, mais mieux, voilà.
Ok.
Moins, c'est pas pour glander, mais être et plus
et
efficace.
Et t'as un livre peut-être à... Parce que ça m'intéresse aussi à me donner.
Ouais, oui, oui.
À nous donner.
Ah, mais attends, je vais le retrouver ici parce que...
Slow working.
Slow working, t'en trouves plein. Hein.
Ouais, mais moi j'ai pas envie de tomber sur de la psychologie de comptoir, tu vois.
J'en ai un, mais je l'ai prêté à une copine justement, qui en a besoin. Si tu permets, je vais regarder dans mon téléphone parce qu'elle m'a envoyé la photo pour me dire qu'elle le lisait. J'ai justement, on a un petit groupe de nanas entrepreneurs, on se fait un truc une fois par mois pour discuter de ce qu'on fait, etc. Informel, hein, mais qui nous fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, j'avais une copine qui avait vraiment besoin de ça parce qu'elle sentait qu'elle était un peu la tête légèrement sous l'eau. Et du coup, je lui ai filé ce petit bouquin, vu que je suis bibliothérapeute, moi je conseille des livres à tout le monde. Bibliothérapeute, c'est conseiller des lectures pour avoir des réponses, des solutions, etc. Où est-ce qu'elle a mis ça? Je vais te le trouver, mais évidemment, on a plein de trucs dans le chat. C'est slow working, c'est plutôt pratique, hein. C'est avec des petits exercices, etc.
Ouais, j'aime
bien. Voilà. Voilà, je sais pas si tu vois.
Ah oui, slow working, 10 séances d'auto-coaching pour travailler moins, mais mieux.
Okay. Ouais. Et en fait, avec tout ce monde en transition dans lequel on est, la question, c'est vraiment de se dire... Comment effectivement je gagne ma vie, parce que c'est quelque chose d'important, mais c'est pas juste une passion, c'est vraiment mon métier. Mm-hmm. Et de se dire aussi, justement pour sortir de ce côté effervescent, tout va vite, tout va dans tous les sens, revenir à soi, ben, c'est faire les choses un peu plus en conscience.
Ouais.
Et même quand tu bosses sur un projet,
et
plus concentré, focus sur un truc, du coup il n'y a rien à faire, t'es plus efficace. Mm-hmm. Que si t'es en train de t'éparpiller dans plein de petites choses, ben...
Il y a le savoir, il y a le
faire
aussi.
Hein, oui, bien sûr. Ouais, mais... Donc de temps en temps, se dire... Et moi j'arrive tout doucement à le faire, mais évidemment le Covid a un peu aidé, parce que parfois t'as des moments un peu plus de ralentissement, donc tu te permets de le faire. Et je me dis, bah, finalement faire une sieste d'une heure, c'est ok.
Ah, moi je suis adepte.
Mais tu vois, mais avant je faisais pas. Plus avec des gosses qui se réveillent la nuit et tout, mais là, non, dors, tu fais plus rien de bon, quoi. Mm-hmm. Ou va faire un peu un petit tour, va faire du shopping, lis un bouquin... Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est plutôt, c'est une forme de stratégie, mais te dire, même quand tu glandes, même quand tu fais autre chose qui a priori n'est pas le boulot, c'est au service du boulot, parce que tu reviens, t'es plus pep, c'est ma newsletter de ce mois-ci, je devais l'envoyer lundi, fin de journée, et j'avais toutes mes idées, mais j'essaie de l'écrire et ça ne vient pas. Je dis, bah tant pis, je vais dormir, et le lendemain matin, j'ouvre mon PC, et paf,
ça
se remet comme ça, ça sert à rien de forcer. Et je trouve que ce genre de guide pratique, c'est intéressant parce que ça te rappelle ça. Ça te rappelle que tu peux lever le pied, c'est un peu ralentir pour mieux sauter par la suite, quoi. Reculer pour mieux sauter.
Mmh. Fixer les choses aussi.
Ouais, tout à fait.
En pleine conscience.
Oui, vraiment.
Et la dernière question, c'est qui aimerais-tu entendre dans ce podcast ?
Ah, mais évidemment, je suis sûre qu'à chaque fois, on te dit qu'on a envie de donner plein de noms parce que
oui, bien sûr.
Ça fourmille de personnes super. Ben je pense à Perrine Dessine, qui est ma graphiste, et qui en fait est bien plus qu'une graphiste parce qu'elle a toujours des propositions qui vont au-delà de juste te donner des visus et machin. Elle te fait vraiment réfléchir sur ce que tu as envie de faire au niveau visuel, mais avec de la poésie, collée au maximum à ton image. Et en fait, elle me challenge parce qu'elle me dit on ferait ça aussi. Et je dis oui ou non, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux. Mais elle me dit, t'as pensé des carnets, machin. Allez, oui, on fait des carnets et on est partis ensemble.
Ah, génial,
et ce que j'aime beaucoup, moi, je m'oriente quand même, j'essaye d'être dans le slow life, comme je te dis, le pleine conscience, etc. Dans un monde qui est quand même en train de changer à plein égards au niveau du boulot, de la vie personnelle. Et elle est vraiment orientée projet durable, quoi. Elle donne vraiment ce signal durable dans le temps. Donc mes carnets, c'est du papier recyclé. Elle me fait toujours des propositions pour que ce soit des choses le plus durables, très locales. J'ai été faire imprimer mes carnets à Liège, en Outre-Meuse. Donc elle me challenge beaucoup à ce niveau-là. Même pour moi, réfléchir à ce que je fais de durable dans mon entreprise. On a des échanges super cool. Et puis, je pense aussi à Virginie et Sophie de Slow Now, qui est une boutique, un espace slow life dans les Vennes. Qui elle aussi, quoi. C'est toujours trouver ce compromis entre je suis entrepreneur et en même temps, j'essaie de prôner cette slow life dans ce que je fais. Et je trouve qu'elles envoient un bon signal et elles me font du bien. Quand j'y vais, je bois un café ou je vais écrire là, elles ont raison. Et quand je viens, à chaque fois, je me dis, ça fait du bien de prendre cette petite heure. Et pourtant, elles sont entrepreneurs aussi. Et elles gèrent super bien leur boutique et machin et leurs espaces. Donc, j'ai envie de les mettre en avant aussi. Elles sont chouettes.
Ah bah cool, bah merci, ça me fait deux chouettes noms du coup. Et bah écoute, merci pour ton temps.
Bah avec plaisir. Je sais pas si j'étais très structurée dans ce que je disais, parce que ça part dans tous les sens parfois dans ma vie. Donc
Bah merci en tout cas.
Merci beaucoup. Ah bah c'est chouette de discuter de ça.
Vous arrivez à la fin du 4e épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que le côté un peu plus naturel de cette conversation vous aura plu et que vous avez pu prendre des conseils intéressants. Je vous invite à retrouver Héloïse sur son compte Instagram, Le Mot qui délivre. Et si jamais son projet vous parle parce que vous ressentez ce besoin d'écrire ou de vous exprimer, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Je pense que ça lui fera très plaisir. Quant à nous, vous pouvez me suivre sur Instagram, La Nouvelle Liégeoise, et je vous retrouve vite pour un nouvel épisode, cette fois dédié au dessin sur Liège. À très vite !